Bien, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être venus nombreux à cette table ronde. Nous démarrons en avance, je vais en profiter pour m'étendre un petit peu sur la présentation de l'ISM, l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman. Je suis particulièrement heureux et honoré de présenter cette table ronde qui a été mise en place par la direction précédente de l'ISM que représente ici Rémi Madinier à ma toute gauche. Parce que cette table ronde incarne un petit peu toutes les vocations de l'ISM qui a été fondée, donc c'est un institut qui a été fondé il y a une quinzaine d'années, pour fédérer l'ensemble des chercheurs français en sciences sociales dont l'objet de recherche est l'islam d'une manière ou d'une autre, ou les sociétés musulmanes. Mais pas seulement en France, puisque l'association avec le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, permet à l'ISM d'inviter 12 chercheurs étrangers dans l'année, chaque année. Et cela permet donc aussi de faire connaître les travaux des chercheurs du monde entier qui viennent d'un peu tous les pays du monde tous les ans. La deuxième vocation, outre le caractère interdisciplinaire de mise en relation de chercheurs en sociologie, en anthropologie, en histoire, en économie, c'est aussi de diffuser auprès du grand public les résultats des recherches récentes des chercheurs dans ces disciplines. Et évidemment, la journée d'aujourd'hui, enfin la table ronde d'aujourd'hui, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique ou dans cet objectif. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous avons choisi des types, des intervenants particuliers pour parler de cette question. Alors, parmi les fonctions, enfin les tâches de l'ISM, il y a un certain nombre d'activités. D'une part, des activités de recherche, avec des séminaires de recherche qui sont organisés soit par des chercheurs de l'école des hautes études en sciences sociales, soit par des chercheurs de l'université ou du CNRS, et donc des séminaires qui s'adressent à des étudiants en master ou en thèse et à un public intéressé. Avec différents thèmes que vous voyez affichés sur le PowerPoint, donc je ne les lis pas, ça ne sera pas un karaoké. D'autre part, des actions ponctuelles, donc des colloques qui sont organisés, financés par l'ISM, qui est un partenaire dans ces cas-là d'autres universités françaises ou étrangères, et vous en avez quelques exemples passés ou à venir qui sont exposés. Vous voyez des thèmes soit littéraires, soit historiques, soit anthropologiques, avec des questions d'actualité. Bon, vous avez dit halal, par exemple. Donc avec, par exemple, table ronde sur les minorités religieuses dans l'Empire ottoman à la veille de la Grande Guerre. Il y a aussi un cycle de conférences mensuelles qui est organisé par l'ISM, donc tous les premiers mardis du mois de 18h à 20h à Paris, au 105 boulevard Raspail, donc dans un amphithéâtre de l'EHESS. Et un programme est défini tous les ans. Le programme de cette année est Islam de France, Islam d'Europe. Et la première conférence a eu lieu mardi dernier. C'était Gilles Kepel qui l'a présenté sur les trois âges de l'islam en France. Donc avec les affiches. D'autre part, il y a des rencontres doctorales qui sont organisées en partenariat toujours avec une institution située dans un des pays du monde musulman qui est en général décentrée, enfin qui se passe alors en Espagne. Les derniers c'était Espagne, Tunisie et Turquie. Merci. Il y a 2 ans, et qui regroupe un certain nombre d'étudiants de du pays d'accueil et des étudiants français ou du monde entier qui candidatent et qui reçoivent une aide pour participer à ces formations doctorales qui durent, Gabriel a organisé pas mal, ça dure combien de temps?
Une semaine,
donc, de rencontres qui permet à des jeunes apprentis chercheurs de se rencontrer et d'échanger avec un partenariat avec les Pays-Bas. Et ensuite, l'ISM a des publications dans des collections ou des maisons d'édition qui sont très liées à l'ISM. D'une part, Cartala, et d'autre part, Terra Aedre, avec une collection L'Islam en débat, et d'autre part, avec un certain nombre de titres qui sont parus, et d'autre part, l'ISM aussi aide à la publication, fournit des aides à la publication dans certaines autres maisons d'édition. Enfin, un des pans très importants de l'activité de l'ISP, c'est la formation professionnelle, formation continue. Et dans ces cas-là, des partenariats sont passés entre l'ISP et soit des administrations, soit des entreprises privées. Plus difficile, le privé, mais donc, par exemple, le milieu carcéral, l'École nationale de la magistrature, dont les membres peuvent être confrontés à des problèmes qui ont un lien avec l'islam ou avec l'islam en France, ou pour les entreprises qui vont à l'étranger, qui ont envie de savoir comment ça se passe, comment se passent les organisations sociales, les relations sociales, les relations économiques, s'il y a des spécificités. Dans ces cas-là, l'ISM fait intervenir des chercheurs spécialisés, reconnus, qui viennent présenter ces différents éléments dans ces administrations ou ces entreprises. Il y a un site internet dont vous avez la mention, un bulletin qui présente toutes les activités et auxquelles vous pouvez vous abonner pour recevoir les actualités de l'ISM, que ce soit les séminaires, les grandes dates des conférences publiques ou bien les colloques plus ponctuels ou les journées d'études. Enfin, évidemment, la table ronde que je vais avoir l'honneur d'animer aujourd'hui sur l'islam rebelle. Je pense qu'il est 11h pile et donc je peux entamer, déclarer la session finalement ouverte après ces préliminaires. Donc aujourd'hui, le thème qui a été choisi, c'est l'islam rebelle. Quel fondement textuel et historique? Et le point d'interrogation arrive à la fin. On pourrait le mettre au niveau des deux points. L'islam est-il rebelle? Donc la question est de savoir si, étant donné l'actualité brûlante sur l'islam, on a l'impression qu'il y a des manifestations assez répandues, généralisées, de rébellion au nom de l'islam. Y a-t-il un lien consubstantiel entre la religion musulmane et la rébellion ou la violence? Mais là, on est plus dans le thème de la rébellion pour se calquer sur le thème qui a été choisi par les rendez-vous de l'histoire de Blois. La décision qui a été prise, justement dans cette perspective un peu interdisciplinaire, a été non pas de réunir des contemporanéistes exclusivement sur cette question, mais d'essayer de voir dans la profondeur historique si on peut suivre une structure fondamentalement rebelle de l'islam. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'islam par rapport aux autres systèmes religieux ou pas? Est-ce que la rébellion dans les régions, dans les sociétés musulmanes, a toujours pris la forme de rébellion religieuse ou pas? Et donc, on a fait appel d'une part à des historiens médiévistes, de spécialistes de la Méditerranée au sens large, hein, des régions périphériques de la Méditerranée. Donc Cyril Haillé à ma droite et Gabriel Martinez-Gros à mon extrême droite. Et d'autre part, pour balancer un petit peu ce pôle, ce, ce pôle, non, on va aller dans l'Extrême-Orient, donc ce pôle méditerranéen, arabe aussi. Rémi Madinier va présenter ou va représenter l'Extrême-Orient indonésien. Donc Gabriel Martinez-Roux est professeur d'université à Paris 8, Paris 10. Cyril Ayé, maître de conférence à l'Université de Lumière Londres 2. Et Rémi Madinier, chercheur au CNRS. Et enfin, le dernier, voilà, le dernier représentant choisi est François Burga, qui sera sur l'extrêmement contemporain et qui nous parlera de Daesh et des événements récents en Syrie et en Irak. Donc, pour commencer, donc, on a décidé de ne pas faire des exposés très longs, mais d'essayer d'organiser un débat entre les différents intervenants de cette table ronde et de laisser un temps à la fin pour les questions qui pourraient émerger de la part de la salle. Donc la première personne à qui je vais demander d'intervenir, ça sera Cyril Ayé, pour savoir si quels sont justement ces fondements textuels de la rébellion en islam. Est-ce qu'on a des textes qui parlent de la rébellion, qui la théorisent, qui permettent d'en comprendre la genèse, l'émergence? Cyril.
Merci, Pascal. Donc, l'islam est-il rebelle? La question posée telle qu'elle, disons, mérite réflexion parce qu'elle nous ramène aussi au présupposé de l'orientalisme. Vous savez, l'orientalisme, c'est ce mouvement esthétique, littéraire, scientifique qui, au XIXe et au XXe siècle, a vu l'islam, les sociétés musulmanes, comme un reflet inversé de l'Occident, qui lisait cette histoire comme, disons, un témoignage sur ce qu'était l'Occident. Et dans ce courant qui a perduré jusqu'aux années 50, eh bien, du point de vue politique, l'islam était vu à la fois comme fondamentalement quiétiste, c'est-à-dire soumis au pouvoir, coincé dans une soumission aveugle au pouvoir établi, au pouvoir dictatorial, à la tyrannie. Donc, engoncé dans cette obéissance aveugle au pouvoir, et d'autre part, agité, troublé périodiquement par des rébellions incontrôlées, par des sautes d'humeur, des révoltes souvent sanglantes. Donc c'est cette image finalement d'une sorte de dichotomie qui caractériserait l'islam entre la soumission au pouvoir établi et un pouvoir fort, un pouvoir tyrannique, un pouvoir suffisamment autoritaire pour dominer le chaos intrinsèque des sociétés segmentaires, des sociétés tribales. Et, disons, pour soumettre ces sociétés aussi, où le référent religieux était censé être central, bien c'est cette idée qui a perduré dans l'orientalisme jusqu'au milieu du XXe siècle. Eh bien, cette dichotomie, finalement, est-elle réelle? C'est-à-dire, y a-t-il vraiment une opposition entre cette position de quiétisme, d'obéissance à des pouvoirs tyranniques, et puis ce poids du chaos, du désordre politique, de la violence incontrôlée? Eh bien, je pense que cette question, elle vient aussi de notre culture politique, c'est-à-dire une culture marquée par la Révolution française, marquée par l'idée que la révolte, la rébellion, eh bien, c'est un moyen, disons, de renverser les pouvoirs établis et d'amener, disons, une évolution vers des pouvoirs démocratiques. Bien. Donc, cette vision, finalement, ce rejet de la révolte comme une forme de désordre qui s'opposerait à l'ordre, mais à un ordre tyrannique, eh bien, c'est pas très différent, finalement, de la théorie classique du sunnisme. L'orthodoxie en islam, enfin l'orthodoxie qui a triomphé, eh bien, condamnait radicalement la rébellion. Hein, et cela au moins jusqu'au XIe siècle. Il y avait réellement un interdit de la rébellion face à l'idée du califat, hein, l'idée d'un ordre politique central, impérial, qui assurait justement l'unité du monde, l'ordonnancement des sociétés, la soumission des tribus, la soumission des forces religieuses. Donc, finalement, dans toute la tradition sunnite, dans la tradition juridique et théologique, la rébellion est proscrite. La rébellion est vue comme une déviance religieuse. Elle est assimilée à une forme de hérésie, une forme de déviance religieuse. En effet, tous les juristes de l'époque médiévale et encore plus loin dans le temps, eh bien, ont vu l'injonction du Coran, sourate 4, verset 59, qui dit « Obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité », elle a vu ce verset comme une injonction à l'obéissance absolue au pouvoir, quel qu'il soit. C'est-à-dire que finalement, le modèle politique du sunnisme jusqu'au XIe siècle se fonde sur l'idée qu'il vaut mieux obéir au pouvoir, quel qu'il soit, fût-il tyrannique, plutôt que de déclencher la fitna, c'est-à-dire le désordre, le chaos, l'anarchie. Bien. Donc c'est pour cela que la tradition sunnite a finalement présenté la rébellion comme une forme de déviance religieuse, voire d'apostasie, hein, c'est-à-dire de retour au chaos, au désordre qui aurait précédé l'islam, au paganisme, hein, dans ce système de pensée historique. Finalement, la rébellion, c'est ce qui amène le chaos. C'est ce qui provoque un retour à cette jahiliya, cette ère de l'ignorance qui a précédé l'établissement de la loi. Cette loi qui s'incarne dans un pouvoir califal de préférence, ou bien à partir du XIe siècle, dans des pouvoirs fondés souvent sur les armes, sur la force, les pouvoirs sultaniens, qui malgré tout assurent l'ordre. L'ordonnancement des sociétés. Donc il y a eu dans cette tradition finalement une assimilation de la rébellion avec l'hérésie, avec le brigandage, avec le désordre politique. On peut-être s'arrêter là pour cette première présentation.
Merci. Alors, il y a quelques éléments que tu soulignes, la question de l'unité et donc la rupture de l'unité que peut représenter la rébellion et donc sa condamnation religieuse. Parce qu'on est aussi, et c'est un élément important, dans un islam où le tribalisme et où les structures tribales étaient très importantes, mais dans les sociétés qui n'étaient pas tribales ou qui ne sont pas tribales, je ne pense pas, d'Indonésie, comment ça se passe plus récemment? Est-ce que ce sont des sociétés rebelles, non rebelles? Rémi Madigné, donc.
Merci. Alors, le cas du monde malais, je vais un petit peu élargir mon propos et pas seulement parler de l'Indonésie. Le monde malais, ce qu'on appelle le monde malais, c'est l'Asie du Sud-Est islamisée. Donc, principalement Indonésie, Malaisie et sud des Philippines. C'est une région qui présente l'intérêt d'abord de sortir un petit peu du paradigme arabo-musulman qui pèse beaucoup sur ce type de débat, de décentrer un peu notre regard sur ces thématiques et plus généralement sur l'islam. Ce monde malais a un intérêt, c'est qu'il a une certaine unité culturelle, linguistique. C'est en gros une région, c'est l'Asie du Sud-Est, donc qui est en région l'angle de l'Asie, entre la Chine et l'Inde, qui a subi notamment ce qu'on a appelé une hindouisation, un processus de colonisation, mais au sens de colonisation romaine par l'Inde indo-bouddhique, et qui ensuite a été islamisée assez tardivement à partir du XVe-XVIe siècle. Si on regarde au regard de la problématique qui nous rassemble, le monde malais, donc ces trois pays, présentent l'intérêt de répondre, de permettre à cette réponse un petit peu comme lorsqu'on effeuille des marguerites, à savoir l'islam est-il rebelle ? Oui, un peu. Oui, beaucoup, passionnément, ou alors pas du tout, suivant quel pays on observe. Si on prend le un peu beaucoup, c'est le cas en gros de l'Indonésie à partir des années 1820. L'Indonésie donc est un pays dans lequel le registre musulman va être mobilisé face à l'avancée coloniale des Néerlandais, mais pendant très longtemps ce registre ne sera pas exclusif. C'est-à-dire qu'on mobilise certes l'islam, on mobilise les notions de rébellion juste, on mobilise la notion de guerre contre l'infidèle, mais on mobilise également tout un registre indo-bouddhique plus ancien et même pré-indo-bouddhique où des divinités tutélaires, des personnages héroïques se retrouvent non pas en concurrence mais en concordance avec cet idéal de justice. Et on peut prendre l'exemple de la grande révolution à Java qui a été ce qu'on appelait la guerre de Java, d'un prince qui s'appelait Diponegoro, qui était en fait un cadet d'une des grandes familles d'un sultanat du centre de Java et qui a levé une véritable armée contre le colonisateur, contre également le sultan régnant. En mobilisant à la fois un personnage mythique qui est celui du roi de justice, qui est un personnage qui existe même avant l'arrivée de l'influence indo-bouddhique, avec un registre également musulman. Et ça se retrouve également plus tard dans des mouvements, notamment des mouvements beaucoup plus populaires, comme au tournant du siècle, une révolte qui s'est appelée la révolte Samine, où on a mêler l'ascétisme indo-bouddhique face aux pressions économiques de la colonisation, notamment des mouvements de retrait, avec également un vocabulaire populaire de l'islam populaire. Donc des réseaux musulmans, certes, un vocabulaire musulman, une grammaire musulmane à la révolte, mais rarement exclusive, mobilisée avec d'autres éléments. Aux Philippines, là, les choses sont plus tranchées parce que on est plus là dans une rébellion dans les régions musulmanes, du moins passionnément islamiste, parce que la christianisation, l'évangélisation est consubstantielle à la colonisation. Et elle se fait même dans un esprit de reconquista, puisque les hispaniques, lorsqu'ils arrivent aux Philippines, sont encore sur la lancée de ces reconquistas. Ils vont d'ailleurs baptiser les populations musulmanes qu'ils rencontrent du nom de Moros, de Mort, croyant un petit peu retrouver ceux qu'ils avaient quittés quelques années auparavant en Méditerranée, les retrouver à l'autre bout de la terre, avec évidemment toute une construction d'imaginaire, comme vous pouvez le supposer, une question sur laquelle on reviendra. Et là, donc, plus naturellement, évidemment, dans les régions musulmanes, la résistance, la rébellion va se faire selon des structures, les confréries, les tarekats, des réseaux et avec des appels au djihad, notamment la guerre de 1851, qui est une guerre extrêmement meurtrière, est une guerre sainte du côté musulman. D'ailleurs, comme du côté chrétien, on le fait, chacun combat au nom de son Dieu. Par contre, aux Philippines, dans le même temps, on a aussi des résistances chrétiennes à l'ordre colonial, des rébellions chrétiennes. Donc on voit bien que à quelques dizaines de kilomètres d'intervalle, des populations vont mobiliser un vocabulaire, vont mobiliser des thèmes, des arguments qu'ils vont puiser dans leur corpus religieux. En particulier, le millénarisme christique donnera lieu à plusieurs grandes rébellions aux Philippines. Et puis, dernier exemple, c'est celui de la Malaisie, où là, on est dans une configuration a priori assez semblable, une population islamisée qui est peu à peu colonisée, réduite sous la coupe plus tardivement là, de l'Angleterre. Et là, il n'y a pas de mobilisation religieuse contre le colonisateur, il n'y a pas de rébellion musulmane. Pourquoi ? Parce que les Anglais vont très tôt, au contraire, instrumentaliser la légitimité du pouvoir musulman, la légitimité des sultans, donc ils vont faire leurs adjoints, en quelque sorte, enfin, selon un mode de colonisation indirecte, et ils vont mobiliser cette légitimité pour justement asseoir leur pouvoir. Pourquoi ils le font ? Parce que dans le même temps, ils modifient complètement la démographie locale. La péninsule malaise est alors très peu peuplée, beaucoup moins que Java, par exemple. Et ils vont faire venir en masse, à partir du milieu du 19e siècle, à la fois des Chinois et des Indiens pour travailler dans les mines d'étain, dans les plantations, etc. Et donc, on va passer d'une société quasiment uniquement islamisé, à une espèce de melting pot à partir de la fin du 19e, où les musulmans vont devenir à peine majoritaires. Et pour maintenir une espèce de cohérence au tout, ils vont décider que le pouvoir légitime, c'est celui de l'islam. Et donc l'islam va justifier en quelque sorte le pouvoir colonial indirectement, et donc permettre aux colonisateurs d'éviter un certain nombre de rébellions. Alors dans un second temps, on va assister à une sorte de mutation de la nature de la rébellion via l'islam, via le corpus islamique, à travers le réformisme musulman. Le réformisme musulman, donc, qui arrive dans cette région du monde assez tôt, à peu près en même temps qu'il naît au Moyen-Orient ou en Inde, à la toute fin du 19e siècle, va permettre une sorte de dépassement de ces rébellions coloniales qui étaient juste, dans un premier temps, des résistances à l'avancée progressive de l'ordre colonial, pour proposer une sorte de sublimation de cet ordre colonial, c'est-à-dire... par un phénomène de concordisme assez bien connu dans le réformisme musulman, on va s'emparer en quelque sorte des valeurs de l'envahisseur pour les retourner contre lui, transformer la Shura en démocratie et au nom de cette démocratie réclamer l'indépendance, et va donc en quelque sorte à la fois amplifier ce mouvement de contestation, mais d'un autre côté en reprenant une grande partie des cadres, et notamment l'État-nation. C'est-à-dire très paradoxalement, ce mouvement qui se veut universaliste, qui se veut une espèce de réponse globale à l'ordre colonial, va être un mouvement qui va, au contraire, en figer les structures étatiques et géographiques.
Bon, je te remercie de tenir le temps aussi parfaitement. Tu mentionnes là des cas de rébellions qui sont un peu particulières, parce que ce sont des rébellions face à des pouvoirs étrangers, en grande partie, donc des rébellions en résistance.
Ce sont des résistances essentiellement coloniales au pouvoir étranger, ou alors, de temps en temps, effectivement, contre le suppôt du pouvoir étranger. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, justement, dans la construction de la figure du rebelle par les Européens.
Et justement, alors, pour revenir sur faire le pont entre ces moments initiaux et le moment de la colonisation où on a des formes de rébellion et de résistance particulières, y a-t-il au sein de l'islam, et l'islam est-il nécessaire, qui sont les rebelles? Y a-t-il une histoire de la rébellion qui peut être théorisée par Ibn Khaldoun, puisque tu connais bien Ibn Khaldoun, qui a pensé donc Gabriel Martinez-Roux?
Bon, d'accord, merci Pascal. Donc je vais vous parler effectivement de choses apparemment assez lointaines. J'espère que vous allez vous y retrouver peu à peu je pense que vous allez vous y retrouver un peu dans ce patchwork. Petit à petit, donc, d'un historien du XIVe siècle qui est très loin de l'Extrême-Orient, assez loin de nous, bien sûr, assez loin aussi, vous allez voir, des réalités religieuses. Donc, c'est probablement le plus grand historien de l'islam. Il s'appelle Ibn Khaldoun. Il a été reconnu comme tel depuis très longtemps. Et sa réflexion ne porte pas du tout sur la religion. C'est un point très intéressant. Cette réflexion sur l'État, ce que lui, en tout cas, appelle l'État, ce que nous appellerions plutôt, nous, les empires, parce que les exemples qui correspondent le mieux à son analyse de l'État, c'est probablement l'Empire romain. Il n'y a pas que des réalités islamiques qu'un musulman puisse analyser. Il peut aussi analyser d'autres réalités, ou du moins sa pensée peut analyser d'autres réalités. L'Empire romain dans ses derniers siècles, l'Empire chinois probablement, l'Empire islamique médiéval ou l'Empire des Mogols de l'Inde. Voilà à peu près les réalités, les formations historiques qui correspondent à la vision d'Ibn Khaldoun. Alors, quelle est sa vision de l'État ou de l'Empire, hein, peu importe. D'abord que l'État, ça sert à accroître la richesse, fondamentalement. C'est-à-dire que ça sert à accroître la prospérité. Et pour ce faire, dans des sociétés agraires dont les progrès économiques sont à peu près nuls, à vue humaine en tout cas, les sociétés agraires dans lesquelles ils vivaient, l'essentiel est de pouvoir mobiliser une richesse que spontanément la société ne mobilise pas. Et c'est l'État qui peut le faire par le biais de l'impôt. L'impôt, c'est cette concentration de richesses qui crée la ville d'abord. Car la ville, ça n'est qu'une concentration de richesses et d'hommes. La capitale, ça n'est qu'une concentration de richesses et d'hommes. Et cette création de la ville permet la diversification des métiers, c'est ainsi qu'Ibn Khaldoun s'exprime, la ramification du travail social et donc ce que nous appellerions, nous, des gains de productivité, mais naturellement au XIVe siècle, il n'a pas le mot, gains de productivité ne se retrouvent pas, ça va de soi. Chez Ibn Khaldoun, c'est ce qui permet tout simplement le progrès économique, le seul progrès économique possible dans une société agraire qui spontanément n'en produit pas, ou pratiquement pas. Donc l'accélération, la seule accélération possible du progrès vient de l'impôt et de l'État, en fait. Le problème, c'est que pour lever l'impôt sur des populations qui sont naturellement rétives, a priori, vous savez, ces populations, l'immense majorité des populations que contrôle l'État, doivent être désolidarisées, détribalisées et désarmées. Elles doivent être soumises pour accepter, pour leur propre bien, bien sûr, hein, ça va de soi, pour accepter le prélèvement de l'impôt qui permet la mise en place du mécanisme de la prospérité, en fait. Donc, la violence qui est nécessaire à l'État, il lui en faut un peu, à la fois pour maintenir l'ordre dans son troupeau, des armées, pour lever l'impôt, et aussi pour défendre ce troupeau contre les prédateurs extérieurs, cette violence, elle doit être prise dans les périphéries que l'État ne contrôle pas. Pas tout à fait, mais avec lesquels il est en relation directe dans les tribus des périphéries, c'est-à-dire que la violence de l'État est constamment externalisée, délocalisée en quelque sorte. Les barbares sont naturellement aux frontières. L'État en a besoin parce que c'est dans ces tribus barbares qu'il lève sa violence. Et donc ces tribus barbares sont à la fois constamment rebelles est constamment présente au cœur de l'État, puisque c'est à elle qu'on confie les fonctions de violence dans l'État, et donc les fonctions de pouvoir dans l'État, bien entendu. Donc les rebelles et le pouvoir sont fondamentalement, intrinsèquement, de la même espèce. Et cette espèce est une espèce toute différente de la grande majorité des populations qui sont soumises à l'État et qui sont assignés aux tâches productives, hein, qui sont l'essentiel de l'État, hein, l'essentiel du progrès économique et de l'activité. Donc, quatre conséquences sur lesquelles je m'arrête. Je ne sais pas ce que je dirai dans la deuxième partie, mais on verra bien. La première, c'est que, premier point, le pouvoir est toujours rebelle et toujours étranger. Le pouvoir est étranger à l'immense majorité de la population. C'est la norme des empires. La norme, c'est les Mongols ou les Mandchous qui gouvernent la Chine, c'est les Turcs qui gouvernent un monde fondamentalement arabe ou persan, etc. Enfin, ou bien, oui, les Turcs aussi, dans le cas des Mongols de l'Inde, c'était les dynasties turques. Le fait que les étrangers soient au pouvoir est la norme, et non pas l'exception. Deuxième point, l'État a besoin de réserves tribales, bien entendu. Il a besoin de réserves barbares aux frontières. Donc les barbares sont nécessaires à l'État. Les barbares ou les rebelles sont une part de la constitution de l'État. Troisième point, bien entendu, ces barbares ne représentent par définition, puisqu'ils sont, eux, infertiles, si j'ose dire. Ils ne produisent pas. Et c'est l'immense majorité de la population qui produit. Donc ils sont une toute petite minorité, bien entendu, d'infimes minorités dont le faible nombre nous surprend ou nous surprendrait mieux si nous ne savions pas depuis Daesh au mois de juin que d'infimes minorités peuvent l'emporter sur des armées apparemment gigantesques mais qui ne servent à rien parce qu'elles sont illégitimes, comme on le dira probablement tout à l'heure, ou parce qu'elles sont... tout simplement puiser dans des milieux sédentaires. Et quatrièmement, et c'est le dernier, la dernière chose, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas une once de religion dans tout ce que je viens de vous dire. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu, on y reviendra peut-être dans la deuxième partie, chez Ibn Khaldoun. C'est une pensée presque exclusivement laïque et d'autant plus surprenante qu'elle a été mise par écrit par un homme qui est mort en 1406. Voilà. J'avais fini.
Merci. Merci pour la transition avec Daesh et pour cette question. On est dans un monde de tribus à l'époque d'Ibn Khaldoun avec une vision de l'État et des relations avec les tribus. Et là, on est dans des tribus mondialisées. Alors, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on puisse avoir des mouvements de rébellion, les dysfonctionnements qui peuvent jouer dans l'émergence d'un État qui prend une forme, d'un mouvement de révolte qui prend une forme radicale, religieuse. Donc François Burga, ancien directeur de l'IFPO, j'ai oublié de le dire.
Daesh en 7 minutes. Cela a été bien dit par mes collègues médiévistes. Il y a toujours des tensions entre les disciplines, mais on est heureux de parler après les médiévistes quand ils nous disent que l'islam n'est pas spécifiquement rebelle. Il n'y a pas d'explication essentialiste à aller chercher dans cette direction. Par contre, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais dire oui, il est exact que des musulmans, peut-être en plus grand nombre que d'autres, se rebellent actuellement. Pourquoi ils se rebellent actuellement ? Parce que les sociétés dans lesquelles ils sont insérés sont globalement parties d'un ordre qui leur a été défavorable au terme de la séquence coloniale d'abord, impériale ensuite, de l'Occident sur cette planète. D'accord ? Prenons le temps de dire qu'ils ne se rebellent pas parce qu'ils sont musulmans et il n'y a pas d'enseignement à tirer du fait qu'ils utilisent un lexique musulman pour exprimer les termes de leur révolte et la norme qu'ils entendent substituer à celle qu'ils combattent. Ça, c'est extrêmement important. On pourra y revenir, mais là, je n'indique que des directions analytiques, d'accord ? Mais j'ai besoin de dire, ils ne se révoltent pas parce qu'ils sont musulmans, même s'ils emploient un lexique religieux pour exprimer les termes de leur révolte. Alors, pourquoi est-ce qu'ils emploient un lexique religieux ? Ça tient en une phrase, ma réponse, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de la croire. La capacité de mobilisation de la référence islamique ne tient pas à son caractère sacré, elle tient à son caractère endogène. Quand ils parlent musulmans, ils font surtout usage d'un lexique qui est perçu comme étant resté à l'abri des incursions coloniales et impériales de la domination occidentale. Donc c'est un lexique endogène qu'on nous met sous le nez pour nous dire « Non seulement je te demande de quitter les terres que tu as occupées, non seulement je te demande de récupérer les ressources économiques sur lesquelles dont tu avais pris le contrôle, mais dorénavant je ne m'exprimerai plus quand je te parle en utilisant les catégories dont tu as eu la prétention de dire qu'elles étaient les seules à pouvoir exprimer l'universel. Je vais te parler avec mon lexique à moi. » La référence islamique, elle est avant toute chose, gardez le présent à l'esprit, ça vous donnera une clé de lecture, elle est homemade, avant d'être sacrée. Et si vous avez ce curseur-là, vous verrez que vous pouvez comprendre pas mal de choses. Si vous avez compris ça, vous comprenez qu'avec le lexique islamique, on peut faire « je vais choquer les musulmans », on peut faire tout l'inverse et son contraire. On peut faire de l'extrême gauche, on peut faire de l'extrême droite. On peut faire du tolérant, du modernisateur, de l'émancipateur, et on peut appareiller le réflexe machiste qui traîne dans toutes les sociétés méditerranéennes. On peut tout faire, l'inverse et son contraire. On peut faire les talibans et on peut faire Erbakan. C'est une très vieille formule qu'on emploie depuis 20 ans. La plasticité de l'usage en politique de la référence islamique. On peut faire des tas de choses avec, d'accord ? Maintenant, on va prendre un exemple contextualisé. Qu'est-ce qui a fait ? Combien de minutes il me reste ? 5 ! 4, mais je vais puiser sur le capital de la seconde intervention, j'aurais tout dit dans la première. Qu'est-ce qui nous a fabriqué Daesh ? Qu'est-ce qui nous a fabriqué le pire du pire ? Rappelons-nous bien qu'avec le lexique islamique, on n'est pas obligé de faire que du « je te tue pour ce que tu es hein ». Où est la frontière ? Où est la ligne rouge, celle au-delà de laquelle on ne peut pas être en empathie avec un acteur politique, même si on estime qu'il se rebelle et qu'il a des raisons ? C'est quand l'acteur politique franchit la ligne de la condamnation sectaire de l'autre. Je te tue non pas parce que ce que tu m'as fait, mais parce que tu es. Bon, eh bien, Daïch, jusqu'à un certain point, il faut être prudent. Il ne faut pas prendre la propagande de guerre tout le temps pour la réalité factuelle. Mais jusqu'à un certain point, Daïch, ils s'en sont pris aux Yazidis que j'ai eu le privilège de côtoyer. Ce n'est pas des gens qui font du prosélytisme. Ce n'est pas des gens qui étaient partie de l'appareil de domination des sunnites irakiens et donc contre lesquels on aurait pu vouloir se venger. Donc ils franchissent bien la ligne rouge, à mes yeux, infranchissable, impardonnable, de la condamnation sectaire de l'autre. Qui est-ce qui les a fabriqués ? D'abord, le régime syrien. Le régime syrien a voulu avoir un adversaire susceptible de discréditer la totalité de son opposition. Il a employé énormément de moyens. Je n'ai pas le temps de les inventorier, mais retrouvez-les très facilement, par exemple sur ma page Facebook, où je les ai énumérés, et vous verrez qu'il y avait des raisons de devenir radical quand on était un manifestant pacifique. Le régime syrien n'a pas assassiné des égorgeurs de policiers. Il a assassiné pendant 7, 8, 9 mois des manifestants parfaitement politiques et parfaitement, je dis, transconfessionnels. Ça ne veut pas dire laïque et démocratique, parce que peut-être qu'il y en avait un qui disait Bismillah avant de partir au boulot. Mais pour moi, ce n'est pas la frontière de l'illégitimité politique. Nous avons laissé faire Bachar, deuxième facteur. Nous avons voulu une opposition syrienne qui soit à notre image. Il fallait que la mini-jupe soit vraiment mini et il fallait qu'il n'y ait pas un poil au menton des opposants que nous acceptions de reconnaître comme tels. On pourrait développer, garder ça présent à l'esprit. Nous avons contribué à disconnecter l'opposition syrienne du tissu militaire et politique intérieur en la dénigrant parce qu'elle était, à nos yeux, pas assez laïque. Troisièmement, qu'est-ce qui a fait Daïch ? Le débordement du conflit irakien, des dysfonctionnements du système politique irakien, fabriqués par les Américains qui ont confessionnalisé, on n'a même pas laissé une chance à l'Irak de s'en sortir à la démocratique après l'irruption. Les Américains ont institutionnalisé la ségrégation confessionnelle et que je te fais un représentant kurde, un représentant chiite, un représentant sunnite. Ce système a dérapé, il a donné El Maliki, qui a fait une armée qui a été perçue comme une armée chiite soutenue par l'Iran et qui a fabriqué de la radicalisation sectaire des sunnites. Cette radicalisation sectaire des sunnites, sur ma page Facebook, un jour j'en avais marre d'entendre le radicalisme, j'ai mis une vidéo d'un mercenaire de Blackwater, et il y a les images, qui se vante d'avoir assassiné 100 personnes en une seule journée. Pas mal, hein ? 100 personnes, d'un seul poste, avec un seul fusil. Ces gens-là sont passés par cette filière-là. Quand ça nous donne des gens d'un radicalisme sans limite, il faut quand même savoir du long tunnel d'où ils sortent. Ils sortent de la violence de Saddam Hussein, ils sortent de la violence de l'invasion américaine et ils sortent de la violence d'El Maliki. Ça, c'est le troisième facteur. Le quatrième facteur, il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler, mais je conclue là-dessus, c'est ce que j'appelle les djihadistes sans frontières. J'aime beaucoup employer une terminologie qui rappelle que le sans frontières, c'est un universel auquel d'autres que nous peuvent vouloir accepter. Les djihadistes sans frontières, tous ceux qui sont des musulmans sunnites, parce qu'il y a cette variable, qui, de par le monde, s'estiment les laissés pour compte de systèmes politiques. Alors là, il y a une nuance à aborder, parce que c'est vrai que le djihadiste de la banlieue parisienne, ce n'est pas le djihadiste tchétchène. Ils vont se retrouver, ils n'ont pas tous vécu des expériences identiques, mais la matrice commune, c'est « ma femme s'est fait cracher à la figure dans le métro parce qu'elle portait le voile » ou alors « je me suis fait torturer à l'infini parce que je luttais contre Poutine ou Eltsine en Tchétchénie ». Mais vous avez les dysfonctionnements politiques de chacune des arènes nationales du monde qui nous envoient leur laisser pour compte. Et eux vont adhérer à l'utopie de la construction d'un Sunnistan libre, utopique bien sûr, libre de toute interférence, à la fois occidentale et chiite, puisqu'il y a cette fracture. Nous sommes en train d'aider actuellement deux régimes qui, par la lunette des sunnites, sont vus comme étant le régime de Maliki et le régime de Bachar el-Assad, que nous sommes en train d'aider en affaiblissant son principal ennemi, qui sont perçus comme étant chiites. Donc c'est cette synthèse épouvantable, cette synergie entre ces quatre dynamiques politiques très diversifiées qui nous a donné cet acteur politique régional qui apparaît maintenant avec des attributs qui font que l'on en a peur d'une part et qu'il attire beaucoup de monde. Il apparaît comme étant en apesanteur, un acteur régional qui est en état d'apesanteur vis-à-vis des acteurs occidentaux pour la première fois dans l'histoire contemporaine de cette région. Hein. Alors on pourra revenir après sur les formes qu'a pris la violence qui est mobilisée par cet acteur-là. J'ai essayé très rapidement d'en dire l'historicité.
En parlant très vite, en plus.
Ah, oui. 7 minutes.
Cyril avait envie de rebondir, je crois, je ne sais pas, calmement.
Ah. Oui, oui, oui. Donc, on a parlé des pratiques de la rébellion. On a commencé à parler de la théorie de la rébellion à Kibben Raltoun. Or, on voit aussi que finalement, la révolte contre l'ordre établi peut, disons, se déclencher par la référence au modèle des origines, c'est-à-dire la prétention à revenir à ce modèle prophétique, hein, au temps zéro de l'islam, avec finalement une souplesse hein, des référents religieux qui est commune à toutes les religions, finalement. Le prophète lui-même donne l'exemple de la révolte. L'égir, c'est la fuite, ou plutôt c'est la dissociation. Hein. La dissociation avec ses proches, avec sa famille, c'est ce moment où le prophète quitte les siens pour fonder l'État, le premier État islamique. Bien, ici on est dans l'usage des référents du temps des origines. Alors, il faut savoir qu'il y a eu quand même des théories de la rébellion. Hein. Il y a eu aussi des théorisations en islam de la révolte contre l'ordre établi. Il y a même eu, disons, des mouvements religieux, politiques, qui ont théorisé ce devoir de révolte contre le pouvoir injuste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, les oulémas modérés qualifient les terroristes de khalijites. Hein. Qu'est-ce que c'est que le khalijisme? Alors, on présente ça comme la troisième branche de l'islam, que personne ne connaît très bien, mais ça figure dans les manuels. Alors, le khalijisme, c'est d'abord une sorte d'épouvantail politique, c'est-à-dire que c'est un concept créé par le sunnisme au nom de l'idée de califat, d'unité, de condamnation de la révolte. C'est ce qui désigne les révoltés, les fanatiques, les sectaires. Mais, disons, ce sont les premières dynasties de l'islam qui ont créé cette notion agglomérante pour masquer ce qui était au cœur de ces mouvements qui ont été qualifiés de khalijites. Alors, il y a des héritiers historiques du khalijisme qui sont loin d'être violents. Ils réfutent cette appellation de khalijite, de déviant, hein, si vous voulez. Ce sont les ibadites à Oman qui se proclament au contraire les démocrates de l'islam, qui en appelle à un pouvoir régi par la démocratie, par la consultation. Alors, il y a une dose de propagande là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à une tradition politique différente en islam, qui est celle qui se réclame de la consultation, de la shura, hein, ce mot a été employé, c'est-à-dire la consultation qui aurait présidé à l'élection des premiers califes, des premiers successeurs du prophète. Donc c'est une tradition politique qui a été minoritaire en islam, mais pas si marginale que ça. Elle était aussi le fait des mutazilites. Vous savez peut-être que vous avez entendu peut-être parler de cette doctrine rationaliste qui a joué un grand rôle dans les traductions, dans le transfert de la science grecque vers l'islam. Et les mutazilites pensaient comme certains groupes khalijites, comme certains chiites, les zaïdites, qui existent encore au Yémen, que le pouvoir devait être un pouvoir élu. C'est-à-dire que le souverain hein, devait être choisi par la communauté, choisi pour son mérite, choisi pour sa piété. Donc c'était un modèle aussi théocratique et fondé sur le choix du meilleur des musulmans. Et aussi fondé sur la possibilité de destitution. C'est-à-dire que c'est toute une branche de l'islam assez dispersée, on dira marginale, mais elle se réclame aussi des fondements de l'islam. Et si on rassemble ces théories au premier siècle de l'islam, ça n'est pas si marginal, et c'est intéressant de noter, c'est aussi une autre source pour l'histoire politique de l'islam, bien tous ces courants se sont réclamés d'un pouvoir collégial, d'un pouvoir que l'on pouvait destituer, d'un pouvoir partagé et d'un pouvoir méritoire. Donc, au nom de cette conception, bien sûr, la révolte était, sinon légitime, enfin, elle était légitime, mais elle était parfois même obligatoire pour certains. Donc, il y a eu aussi une tradition politique dont les derniers héritiers, Oman, actuellement, disons, qualifiés de tradition démocratique. Alors certes, ce n'est pas vraiment de la démocratie, parce que c'était une conception d'un pouvoir régi par des assemblées de notables et non pas des individus, mais c'est une conception alternative, finalement, du pouvoir en islam. Voilà.
Merci. Alors bon, c'est vrai que on a l'impression entre le tableau que tu fais de groupes assez épars pour les Khalidjites en particulier et de pensée donc d'une diversité de l'islam et de la pensée musulmane, et on a face à ça Daesh qui a l'air de fédérer quelque chose qui est très différent de ce dont tu peux évoquer. Est-ce qu'il y a des espaces comme ça, enfin des éléments fantasmatiques qu'on peut retrouver aussi dans l'extrême-Orient? Est-ce qu'il y a des affinités aussi?
Oui, bien sûr. On voit dans l'extrême-Orient musulman, comme ailleurs, on assiste à cette construction de l'autre en rebelle. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Cyril Aye, il y a eu également dans les sultanats du monde malais ces exemples de démocratie avant l'heure et après l'heure, c'est-à-dire à la fois, par exemple, dans les sultanats entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il y avait un grand sultanat sur l'île de Sulawesi, qu'on appelle les célèbres, où 16 des 21 sultans, en deux siècles, ont été destitués parce qu'on considérait qu'ils ne faisaient plus l'affaire. Donc il y avait cette idée d'un contrôle du pouvoir populaire. Plus tard, d'ailleurs, j'ai évoqué tout à l'heure le réformisme musulman, a donné aussi naissance à ce qu'a été le plus grand parti musulman du monde en Indonésie, qui s'appelait le Masyumi, et qui a été un vrai parti démocrate musulman, à savoir qui a accepté de remettre entièrement la question de l'adaptation, de l'adoption de la loi divine dans les mains du Parlement. Alors, comment effectivement on passe de l'un à l'autre? Eh bien, il y a le rôle qu'évoquait, pour une période beaucoup plus récente, François Burga, le rôle de l'autre, à savoir, en l'occurrence, nous, l'Européen, le colonisateur, en instrument de la construction de ce rebelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Indonésie, par exemple, on arrive à la suivre sur un temps assez long, sur plus d'un siècle. On la voit apparaître, l'idée que le musulman est fondamentalement rebelle, on la voit apparaître à peu près au milieu du 19e siècle. Que se passait-il avant? Évidemment, que ce soit les Portugais ou les Néerlandais étaient en contact avec les autorités musulmanes locales, eh bien, ils avaient, y compris les Portugais, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, une attitude relativement pragmatique. Ils étaient notamment plusieurs occasions, ils ont fait des alliances en jouant certains sultanats contre les autres. Ça a été le cas, par exemple, aux Moluques, où les Portugais ont joué Ternate contre le sultan de Tidore. Ça a été le cas également à Java pour les Néerlandais. Et puis, au fur et à mesure que la colonisation progresse des côtes vers l'intérieur des terres, au fur et à mesure qu'elle devient de plus en plus visible, ils vont utiliser les sultans et toute leur bureaucratie comme auxiliaires coloniaux. Et là, tout en faisant ça, ils vont opérer une mutation des légitimations du pouvoir, de ce pouvoir du sultanat, qui auparavant... Et contrairement un petit peu à ce qui se situait dans les espaces plus de l'Asie centrale et du Proche-Orient décrit par Gabriel Martinez-Gros, où on partait d'un espace de légitimation du pouvoir qui était organisé comme un mandala. C'est-à-dire qu'une série de cercles concentriques où vous avez au centre le roi qui est l'axe du monde, le roi qui devient le sultan et qui islamise son nom, mais qui reste en général, c'est même les mêmes lignées, il est l'axe du monde. C'est celui qui tient tout cela en équilibre. Et autour, par cercle concentrique, on s'éloigne de la pureté, on va vers la marge, mais la marge fait partie également du système. Jusque dans la rébellion. C'est-à-dire qu'on va voir notamment des fils de famille partir avec des vies d'ermites dans des traditions indo-bouddhiques, aller dans la forêt, invoquer les esprits, se rebeller, critiquer le système et ensuite être récupéré par ce système et revenir dans le giron de la cour. Eh bien, ce système qui est assez fluide va en quelque sorte être figé par la colonisation qui va sommer en quelque sorte ces sultanats, ces royautés, de choisir entre les légitimités qu'elles invoquent et leur sommet quasiment d'abandonner la légitimité islamique. On va, il y a tout un travail, notamment scientifique, des colonisateurs néerlandais qui vont essentialiser la référence indo-bouddhique, en faire la vérité de la légitimité de ces pouvoirs, y compris quand ces pouvoirs sont des sultans. On va réifier en quelque sorte cette idée et ces références indo-bouddhiques pour refuser de voir l'islam. On va l'écarter. D'où une espèce de rupture dans le champ symbolique qui fait que lorsque, comme d'Hippo Negro dont je vous ai parlé, vous quittez, vous faites ce phénomène finalement assez de pérégrination rebelle, assez naturel jusqu'à une certaine époque, eh bien à un moment vous vous trouvez en rupture avec une référence notamment islamique qui ne vous permet plus de revenir dans ce champ-là. Et donc, on y assiste à peu près donc, à partir du milieu du 19e siècle. Le musulman, c'est celui qui devient le rebelle. Et donc, le rebelle, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit ? Il faut qu'il soit musulman. Celui qui critique l'ordre colonial, puisque toute une partie des élites se sont ralliées à cet ordre colonial, il n'a que comme registre mobilisateur l'islam. L'autre registre, le registre indo-bouddhique qui auparavant fonctionnait, ne peut plus fonctionner, il a été confisqué indirectement par la colonisation. Ce modèle de construction de l'autre, de la figure du rebelle musulman, ensuite on peut la suivre. Il y a une grande éclipse, pourrait-on dire, c'est une éclipse qui va des années 20 aux années 70. Deux raisons principales. La première, c'est le communisme. L'apparition du communisme, justement, fournit un autre cadre à la rébellion, avec son universalisme, avec aussi ses capacités d'organisation. Et puis ensuite, la période des indépendances, qui vont évidemment vider un petit peu cette rébellion contre, au moins contre un ordre évidemment oppresseur qu'est l'ordre colonial. Mais on retrouve ensuite, avec un héritage, y compris un héritage communiste, organisationnel, ça se voit notamment dans les mouvements issus des frères musulmans, dans les années 70, avec un petit peu l'épuisement des indépendances, l'idée que finalement ces jours meilleurs où tout devait se construire assez naturellement fonctionne plutôt assez mal qu'assez bien, on voit réapparaître cette référence islamiste, à la fois dans le vocabulaire et dans les espaces symboliques. Dans le vocabulaire, ça se voit par exemple très bien, ça se date, si on prend les Philippines, vous avez un mouvement rebelle contre un irrédentisme, donc un irrédentisme du sud des Philippines, musulman, c'est le MNLF. Le MNLF, c'est un mouvement qui a été financé par Kadhafi, par Assad père, donc c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement islamiste à l'origine, mais qui est un mouvement communautariste musulman. C'est-à-dire on se bat au nom d'une communauté musulmane, mais non pas au nom d'un islam de projet. Et puis arrive dans les années 75 une scission qui va prendre de plus d'importance, qui va s'appeler le MILF. I, c'est donc le mouvement islamique de libération moro, le Front islamique de libération moro en anglais. Et la référence islamique revient. Pourquoi ? Eh bien parce que justement elle va permettre de proposer un ailleurs qui va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure d'une part que l'alternative communiste va s'éteindre, et d'autre part que cette référence islamiste va être opérante face à l'adversaire. Et on peut poursuivre cette analyse jusqu'à la création de mouvements qui sont des mouvements proches d'Al-Qaïda, notamment la Jemaah Islamiyah, qui est le mouvement qui est en Asie du Sud-Est et la principale organisation terroriste, qui a organisé les fameux attentats de Bali d'octobre 2002, un an et un jour après le 11 septembre. Eh bien, cette organisation, qui n'est pas une filiale d'Al-Qaïda, qui est plutôt une organisation sœur, qui naît un petit peu dans les mêmes conditions, à savoir ces circulations du djihad global où on allait, après quelques années d'études au Yémen, en Égypte ou dans quelques autres pays ou en Arabie Saoudite, on passait par le djihad afghan, pas tellement pour combattre, mais plus pour se former, et où on revient projeter en quelque sorte une utopie qui est désormais mondialisée dans sa région. Et pourquoi on rejoint cette utopie mondialisée ? Eh bien, parce qu'encore une fois, elle est opérante vis-à-vis de l'adversaire. Et dans le cas de la Jemaa Islamiyah, on voit très bien comment cette image se construit parallèlement et avec l'aide involontaire, dira-t-on, des services secrets et des médias occidentaux. C'est-à-dire tant que le combat se fait, ce même combat se fait au nom d'un irrédentisme régional dans un coin d'Asie du Sud-Est, en gros, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne, ni des gens qui pourraient vous aider, ni des gens qui pourraient vous combattre. Et à partir du moment où, au contraire, on inscrit tout cela dans un espèce d'espace fantasmagorique, global, mondial, le bien contre le mal, là, par contre, afflue des deux côtés, à la fois les ennuis... Et les soutiens. Alors, je voudrais juste terminer en disant que dans ce schéma, on a également une... Donc là, on voit évidemment comment la référence musulmane globale sert d'appui, de point d'appui aux rebelles, mais ce qu'on voit beaucoup moins, c'est qu'il y a un mouvement plus silencieux, qui est au contraire un mouvement concordiste, quiétiste, consumériste, qu'on voit sans doute beaucoup plus en Asie pour simplement des raisons de croissance. On est dans des pays qui, depuis 15 ou 20 ans, ont 10% de croissance, où il y a une émergence de classe moyenne très importante, où les gens vont dans des malls, gagnent de l'argent, achètent des voitures, et on n'est pas du tout dans la situation de l'arc de crise du Proche-Orient arabe. Eh bien là, on voit au contraire grossir finalement ce qu'a décrit notamment Cyril Hayet, à savoir cette espèce de quiétisme musulman extrêmement conservateur qui supporte assez mal la rébellion, la dissidence et qui se fond à merveille dans la société de consommation occidentale en prenant absolument tous les codes, sauf qu'ils les peignent en vert. C'est-à-dire qu'ils vont dans les malls, mais dans les malls, ils vont maintenant dans des boutiques islamiques. Ils ont des petits pavillons dans les lotissements, mais ils appellent ça lotissement islamique. Ils vont dans les banques, et dans ces banques-là, ils font à peu près tous les tripatouillages qu'on fait dans nos banques. Simplement, ils appellent ça finance islamique. Et donc, on voit bien qu'on a une disjonction avec l'idée de rébellion qui est maintenant, et notamment dans ces régions où les choses vont plutôt bien, ce qui n'est pas le cas, évidemment, en Syrie et au Liban, la disjonction, elle est totalement interne. Et ça se rapproche peut-être plus, d'ailleurs, de nos sociétés, où on voit, entre guillemets, ce qu'on a appelé, de manière peut-être un peu maladroite, l'émergence d'une bourgeoisie qui se fond parfaitement dans l'espace national et où, finalement, la posture de rebelle est prise seulement par des marginaux qui ont quelque chose à redire à l'ordre général.
Gabriel, tu
oui. Eh bien, effectivement, on ne peut que rebondir quand on part, comme moi, de la théorie d'Ibn Khaldoun, à la fois sur ce que disait Cyril et sur ce que vient de dire Rémi. C'est-à-dire que le problème, et aussi François Burgat d'ailleurs, le problème ce n'est pas l'islam, c'est l'existence quasi structurelle de marge. D'ailleurs, j'ai remarqué que Rémi parlait de l'islam combattant à propos en particulier du sud des Philippines, c'est-à-dire de la marge extrême de l'islam malais, et qu'il parlait évidemment des malls à propos de, il ne l'a pas dit, mais je crois que c'est assez clair, de l'islam javanais, c'est-à-dire de l'islam central en quelque sorte, hein, de la masse, de l'immense majorité de la population de l'Indonésie. Donc le problème, ce n'est pas l'islam, mais l'existence de poches de violence dont il faut rappeler qu'elles ne sont pas exclusivement musulmanes, parce que pour qui connaît un peu, par exemple, peut-être certains d'entre vous, les sociétés de l'Amérique latine, les évolutions sont assez comparable, hein, c'est-à-dire que vous avez des marges qui sont en train de se constituer au Mexique, au Brésil, dans pratiquement tous les pays latino-américains, des marges en léopard, hein, bien sûr, il y a des quartiers entiers qui échappent à peu près complètement à l'autorité de l'État et où les taux de criminalité, comme vous le savez, dépassent les taux de mortalité par balle, dépassent ceux d'une guerre moyenne-orientale moyenne, hein, si j'ose dire, hein, d'une guerre d'Irak quelconque ou d'une guerre de Syrie quelconque. Ce qui distingue l'islam, c'est la cohérence idéologique sunnite. Hein, comme le disait Cyril, comme le disait aussi François Burgas, c'est cette cohérence idéologique sunnite que n'ont pas évidemment les cartels de la drogue latino-américaine et qui assure évidemment un débouché politique à cette violence des marges que pour l'instant la violence latino-américaine n'a pas. Et c'est une cohérence idéologique. Alors là, je reprends tout à fait ce que disaient à la fois Cyril et François. Une cohérence idéologique d'autant plus forte qu'elle est en rupture ouverte avec ce que nous appelons, nous, la morale universelle et qui est la nôtre, bien sûr. C'est-à-dire que, il faut dire les choses quand même brutalement, hein, qu'elle est contre l'homosexualité, qu'elle est contre l'égalité des sexes, qu'elle est pour la peine de mort, bien sûr, mais elle est aussi et surtout pour la polygamie. Et depuis quelque temps, ça s'est peu noté, mais je vous l'annonce, au cas où vous l'auriez négligé, elle est pour l'esclavage. Hein. Elle a rétabli l'esclavage. Daesh, et tout comme Boko Haram en Afrique, ont rétabli l'esclavage, tout simplement. Pas l'esclavage sexuel, parce que là, le petit adjectif qu'on met à côté, ça abolit un peu ou ça affaiblit un peu la chose. Non, ils ont rétabli l'esclavage, tout purement et simplement. Donc c'est un discours qui résonne, hein, et qui se répercute d'un bout à l'autre de la diagonale aride de l'ancien monde, comme on disait autrefois, c'est-à-dire depuis pratiquement le Nigeria jusqu'au Xinjiang. Mais c'est vrai que ce discours est remarquablement cohérent, et il est remarquablement cohérent parce qu'il est opposé presque point pour point, hein, comme vous l'avez très bien dit, François, il est opposé point pour point à celui que l'Occident considère comme le discours désormais naturel. Tout simplement. Hein. Bon, ben, il n'est pas naturel. Hein. Il est celui de notre civilisation, mais il n'a rien de... Bon, on fait beaucoup plus quand même de droite que d'extrême-gauche, hein, quand même, avec le discours islamique. Bon, alors, pourquoi cette violence Alors, c'est là qu'Ibn Khaldoun se réintroduit agréablement, si j'ose dire, dans notre monde. D'abord parce que cette violence est due à son contraire, ce que dit très, très bien Rémi. C'est-à-dire que cette violence est d'autant plus visible que les progrès de notre civilisation sont plus spectaculaires, en fait. Ce qui frappe, c'est la violence parce que les grandes majorités l'ont totalement abandonnée. Parce que les grandes majorités se rendent dans les centres commerciaux et obtiennent des cartes bancaires. Hein. Aussi bien dans l'islam que dans le reste du monde. Hein. Je vous rappelle les données essentielles, les trois données essentielles de cette civilisation du monde, hein, en quelque sorte. La première, c'est l'urbanisation. Hein. La majorité de la population mondiale est désormais urbaine depuis les années 2005-2010. La deuxième, c'est la scolarisation. À peu près 80% des enfants dans le monde sont désormais scolarisés, bien ou mal. Bon, c'est une autre question. Mais presque tout le monde va à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans, à peu près. Hein. Et la troisième, c'est la baisse spectaculaire partout dans le monde, sauf en Afrique noire, parce qu'il y a là un certain retard indiscutable. Hein, mais indiscutablement aussi dans le monde musulman, la baisse spectaculaire de la fécondité mondiale. En 60 ans, la fécondité est tombée de 5,4 enfants par famille en 1950, c'est-à-dire à peine moins que 3000 ans auparavant, à peine moins que ce qu'on peut estimer avoir été la fécondité au début du premier millénaire avant notre ère. Elle est tombée à 2,5 enfants par famille en 2010. Hein. Et donc, le 21e siècle sera le siècle de la fin de la croissance de la population mondiale. Mais à cette évolution, il existe des poches de résistance. Alors, on peut discuter très longuement de ce que sont les origines de ces poches de résistance. Il existe des refus efficaces, d'autant plus efficaces, hein, et des rébellions d'autant plus efficaces que les grandes majorités sont précisément désormais désarmées. C'est-à-dire que nous sommes désarmés, mais la masse des Indonésiens, elle est aussi. Hein. Et la masse des Égyptiens, elle est aussi. Mais de toutes petites minorités peuvent désormais influer avoir un effet de levier considérable sur le monde, précisément parce que les grandes masses sont désarmées, qu'elles ont confié, comme le veut la théorie d'Ibn Khaldoun, qu'elles ont confié leur violence à l'État, que l'État les a désarmées. Hein, car, et c'est là que je m'arrêterai, hein, car Ibn Khaldoun vous dirait que cette évolution est inévitable. Inévitable. Hein. La civilisation désarme, ou plus exactement l'État, qui est le représentant par excellence de la civilisation, la force civilisatrice par excellence, a pour fonction de désarmer. Et donc, effectivement, très étrangement, mais très logiquement dans le système khaldounien, il donne le pouvoir aux minorités qu'il n'a pas réussi à désarmer. Voilà. C'est-à-dire les barbares des frontières, hein, ceux qui nous déplaisent si fort aujourd'hui. Voilà. Pour moi, c'est tout.
Avec une petite nuance, si tu me permets, c'est qu'à ce moment-là, on peut s'interroger sur l'État américain qui délègue son pouvoir militaire à Blackwater, donc à des entreprises. Ces barbares-là, pour l'État
tout
américain,
fait.
Sont
tout à fait. Oui, oui, non, mais, oui, oui, absolument. Mais même le fait que dans l'armée américaine, désormais, les latinos soient aussi nombreux, il est très évident que c'est dans les marges où il n'a pas réussi à réduire totalement la violence que l'État va chercher sa propre violence. Hein. C'est le système d'Ibn Khaldoun, précisément.
François, tu veux conclure ?
Certainement pas conclure, ça serait prétentieux. Avant d'entendre mon camarade de l'extrême droite, j'avais imaginé de vous infliger un petit post de quelques lignes que j'ai pas pu mettre en ligne parce que j'ai pas de connexion depuis près de 24 heures maintenant à Blois. Comme porte d'entrée dans notre difficulté à accepter qu'il puisse exister un autre universel avec lequel nous soyons en tension. Hier, sur une radio, j'ai commenté les raisons pour lesquelles ces salauds de Turcs laissent se faire massacrer les pauvres Kurdes juste en face. D'accord ? Pourquoi ils les laissent se faire massacrer juste en face ? Parce qu'à leurs yeux, les Kurdes sont un ennemi qui a un potentiel irrédentiste dans leur propre société, qui est beaucoup plus inquiétant que le radicalisme islamique. D'accord ? Alors j'écrivais « Le désarroi amer des défenseurs de Kobané, déshumanisé à bien des égards parce que trop kurde, est réputé de ce fait potentiellement hostile à la nation turque, d'autres l'ont éprouvé. Ce sont les dizaines de milliers de Syriens que, l'arme au pied, nous avons regardé à Homs ou à Alep se faire écraser sous des milliers de tonnes de bombes parce qu'ils étaient trop sunnites ou pas assez laïques à nos yeux. » Et ça, il faut qu'on arrive à faire l'exercice mental de comprendre pourquoi nous ne sommes pas allés sauver les Libyens qui se faisaient écraser, parce que quand on regardait de près, on entendait des gens qui disaient « Bismillah, Wallahu Akbar ». Et c'est quand même ce différentiel, cet humanisme à géométrie variable qui est au cœur des dysfonctionnements du monde, qui fabrique ce radicalisme extrême que j'ai essayé d'évoquer ce matin. Et là, dans tous les débats, parce que vous avez remarqué, c'était normalement un débat. Il faut bien qu'il y ait une contradiction entre des intervenants. Alors moi, je ne laisse pas passer à mon extrême droite l'idée qu'on pourrait, avec l'islam, faire plus naturellement de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Je ne laisse pas passer au niveau du principe. Je dis stop. Avec le lexique islamique, on peut faire de l'extrême droite et on peut faire de l'extrême gauche. Et les expressions récentes de la réappropriation du lexique musulman depuis la révolution islamique chiite en Iran jusqu'aux formes contemporaines des courants islamistes nous montrent un spectre de posture politique qui est trop large pour qu'on puisse énoncer aussi brutalement que vous l'avez fait, cher Gabriel.
Je parlais
on
du
fait
sunnisme.
Plus d'extrême droite.
Je parlais du
oui,
sunnisme.
Mais même que du sunnisme, parce que Daesh, c'est une périphérie radicalisée par une lessiveuse épouvantable dont j'ai essayé de dire les termes. C'est pas la matrice, je dis pas des musulmans, je dis c'est pas la matrice des courants islamistes contemporains. Une écrasante majorité des courants islamistes contemporains, oui, sont en tension sur le mariage pour tous. Mais il n'y a pas que chez eux, quand même, que je sache, hein, si j'ai regardé le paysage de notre propre société. Donc oui, il y a une tension sur l'homosexualité. Nous évoluons lentement sur ce terrain-là, mais il y a une tension dans la salle sur l'homosexualité et le mariage des évêques entre eux. On est bien d'accord, quand même. Non, mais... Donc on ne fait pas a priori plus naturellement de l'extrême droite avec le lexique sunnite. Ça, je ne suis pas complètement d'accord.
Moi, l'esclavage
la... Non, on est d'accord. La posture... Alors, l'esclavage... Bonne remarque. L'esclavage, j'ai vu comme vous ces images du marché de l'esclavage qui sont passées sur Antenne 2. Et comme elles m'ont fasciné, ces images, je les ai... Sur France 2. Je les ai cherchées. Oui, ça... Ça date, hein. Ça date l'intervenant. Je me suis déjà fait piéger plusieurs fois comme ça. Mais bon, j'essaye pas de tricher, d'accord. Il n'y a pas de botox non plus. Bon. Et ces images m'ayant intrigué, je les ai recherchées, n'est-ce pas? C'était des images de la célébration de l'Ashura dans la fête de Nabatieh, dans la ville de Nabatieh au sud Liban. D'accord? Donc, attention, la propagande de guerre du PKK est plus musclée que l'extrémisme bien réel. C'est vrai ce que je dis, hein, c'est vérifiable. Je peux vous le mettre sur ma page Facebook cet après-midi. C'était la célébration de l'Ashura dans la ville de Nabatieh, où il y avait des pénitentes en noir, comme il y aurait en Espagne, et qui portaient des chaînes. Alors, France 2 nous a présenté ça comme le marché aux esclaves rétabli par Daïch. Donc, on se calme. Daïch, c'est des radicaux, je l'ai dit. J'ai dit pourquoi ils sont derrière une ligne rouge que je ne franchirai jamais. Mais attention, n'en rajoutons pas, ce n'est pas nécessaire. Moi, ce qui me paraît réunir le lexique sunnite et les autres lexiques, c'est que pour rendre une valeur légitime dans le groupe d'appartenance qui est le nôtre, nous utilisons des segments de nos patrimoines historiques respectifs. Vive la justice sociale! Si je suis un vieux gaucho, je dis parce que Lénine a bien dit, si je suis du front de gauche, mettons, je dis parce que Lénine a bien dit, vive la justice sociale. Si je suis catholique, je dis parce que Jésus l'a dit. Et si je suis musulman, je dirais el Coran el Karim. Mais en dernière instance, à la fin de la journée, nous avons quand même une matrice commune des grandes valeurs humanistes. Et après, nous avons des expressions conjoncturelles, culturelles, conjoncturelles, liées à l'historicité propre de nos sociétés. Il faut comparer, il faut pas comparer l'avocate new-yorkaise avec la paysanne yéménite. Il faut la comparer avec ma grand-mère. Elle ne serait jamais sortie sans un voile pour aller à la messe le dimanche. D'accord? Donc on fait des raccourcis des fois, mais structurellement, le capital symbolique de la religion musulmane peut être apparié au service de valeurs qu'on va considérer comme universellement modernisantes. Il fallait bien qu'il y ait un petit différent, et je pense que Gabriel doit avoir le droit de conclure. C'est lui le plus sage de nous tous. Merci de votre attention.
Évidemment, je ne suis pas très d'accord. Bon. Savoir quoi? Oh, ben non, que je n'avais pas regardé ce témoignage d'Antenne 2, mais je peux vous dire, dans les textes qu'il diffuse de France 2, voilà, c'est ça, on est de la même génération, visiblement, et probablement au départ de la même école, mais on a un peu divergé, même vrai. Si, même, ben, mais les textes sont très clairs. Hein, je veux dire que il s'agit de Boko Haram, hein, d'abord. Et puis ensuite de Daesh, mais bon, ce sera un des points, et d'une manière générale, le djihadisme militant est tout à fait assiste beaucoup là-dessus, comme l'a dit François. C'est-à-dire, c'est un des points où vous pouvez trouver un terrain d'affrontement privilégié avec l'Occident. L'Occident dit il n'y a rien de pire que l'antisémitisme, soyons antisémites. L'Occident dit il n'y a rien de pire que l'esclavage. Ils ont même élu un président aux États-Unis qui, paraît-il, a quelques rapports avec cela ou à cause de cela. Eh bien, soyons esclavagistes. C'est une manière de dire, tout à fait, hein, que je crois qu'on est d'accord là-dessus, le discours de l'Occident n'est pas n'a aucun droit à réclamer l'universalité ou la naturalité. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est un discours parmi d'autres, mais nous avons le nôtre et qui s'y oppose très, 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 très brutalement. Et c'est pourquoi, je finis vraiment là-dessus, l'avocat new-yorkaise et la femme de ménage yéménite sont beaucoup plus liées qu'on ne croit. C'est-à-dire que dans l'islamisme, la femme de ménage yéménite est supposée s'opposer précisément à l'avocat new-yorkaise, mais dans un même monde, hein, comme deux pôles d'une même réalité. Bon.
Bon, on va conclure là, à part que là, on est sur des appréciations, je pense, assez différentes d'événements assez récents, parce qu'il y a très clairement des deux côtés un lien d'action-réaction entre l'Occident et les modèles qui sont opposés et qui sont les plus médiatisés en plus. C'est-à-dire que le pire dans cette histoire est en effet la médiatisation de ce marché aux esclaves qu'on peut inventer ou qui peut exister et qui en effet permet de mutuellement légitimer des positions d'antagonisme viscéraux et manichéens et radicaux et qui évite évidemment toute compréhension des phénomènes à mon sens. L'autre élément pour finir là-dessus, c'est qu'en effet permet d'anticiper des jours meilleurs, c'est ce que tu disais sur les indices de fécondité qui se rapprochent, c'est qu'au bout du compte les femmes, même si on est dans une phase où on va dire la femme on rétablit son infériorité, elle contrôle sa sexualité, elle contrôle et elle, sa fécondité. Donc sa sexualité peut-être pas, mais sa fécondité. Et c'est une évolution qui est générale à tous les pays musulmans globalement. Et évidemment, ça implique un équilibre au sein des sexes totalement différents, sans parler de l'alphabétisation aussi qui joue un rôle fondamental. Bon, je vais arrêter là. S'il y a des questions dans la salle, en évitant que ça finisse en pugilat derrière la table, donc posez des questions consensuelles, s'il vous plaît. Merci. Moi qui... Il y a un micro, ouais. Alors, peut-être. Il y a une
dame. Oui, je vais aller vite. L'actualité nous amène surtout à parler d'opposition, de confrontation, de peur, de méfiance. Mais en même temps, l'histoire des relations entre l'islam et l'Occident, elle est beaucoup plus complexe et notamment, elle comporte beaucoup de rencontres et beaucoup d'interactions. Et j'aurais envie d'interroger les intervenants pour dire, alors c'est une question à 100 balles, hein, en quelques secondes, la résultante de ces siècles d'existence depuis que l'islam est arrivé dans l'histoire et de cette confrontation planétaire, en tout cas entre l'Occident et l'Orient, est-ce que la résultante, elle est plutôt elle va plutôt dans le sens de l'opposition, les croisades, etc., ou est-ce qu'elle va plutôt dans le sens de l'interpénétration et de la synthèse?
Alors, je ne vais pas faire les réponses à la Georges Marché. Le bilan est globalement positif ou le bilan est globalement négatif. Parce que à une question comme ça, de toute façon, il n'y a pas de réponse simple. Il y a eu des rencontres et il y a eu des confrontations. Et le bilan, je pense que chacun l'a vécu en permanence, au cours du temps. Pour ceux qui se sont fait égorger par les chrétiens ou les chrétiens par les musulmans, le bilan a été plutôt négatif. Et pour ceux qui ont développé leur intellect, appris à connaître l'autre, étaient curieux, se sont transmis des savoirs, il a été globalement positif. Je n'irai pas plus loin dans la réponse. Oui.
Je réponds tout de suite. Le premier, comme ça, ça vous laisse le temps de réfléchir. Moi, je réfléchis pas, je tire à la hanche. Il y a deux réponses. La première est celle que vous donnez implicitement dans votre question, c'est-à-dire qu'il y a une part de mauvaise foi ou d'éloignement des sujets qui fâchent. La deuxième est plus intéressante. La deuxième réponse plus intéressante, c'est qu'en effet, si vous reprenez le schéma fondamental, c'est-à-dire qu'il existe dans les sociétés musulmanes qui ont conservé le schéma impérial, des marges violentes dans lesquelles naissent les rébellions et aussi les hérésies, et des centres très profondément conservateurs et au total pacifiants ou pacifiés. Pour ces centres pacifiants et pacifiés, c'est-à-dire les grandes majorités des populations, à Java comme au Caire, comme à Damas, comme etc., les gens des marges sont à la fois des barbares et des hérétiques. Donc naturellement, puisqu'ils sont des marges, ils sont hérétiques et leur islam n'est pas le bon. Bien sûr, l'islam des montagnes berbères n'a jamais été celui des oulémas de Fès. Le vrai, le seul, bien entendu, aux yeux des oulémas de Fès, bien entendu. Mais il n'en a pas moins été très souvent l'islam le plus actif et le plus créatif, y compris de dynasties et de grandes dynasties, voire de grandes civilisations. Voilà.
Quelqu'un d'autre veut...
Non, je répondrai juste un réflexe naturel. Pourquoi sommer les musulmans de se justifier? Enfin, c'est la réaction de beaucoup de gens. Raphaël Liogier qui a bien répondu. Pourquoi assigner les gens à cette identité musulmane? On peut être de parents... maghrébin et ne pas vouloir être identifié à un musulman, même si on pratique.
Oui, je rajouterais, je ne sais pas si ça répond très exactement, mais je pense qu'il faut que nous ayons conscience en tant que citoyens français d'un déficit de fonctionnement de notre vivre ensemble, qui est que il y a plusieurs façons de dominer l'autre. La façon brutale, c'est ferme ta gueule. Mais il y a pire. Il y a pire. C'est je vais fabriquer des interlocuteurs supposés te représenter et qui vont parler à ta place. Et ça, nous sommes des champions. Depuis la tradition coloniale des haras et des bachagas, c'est-à-dire qu'on fabrique des fausses élites qui parlent au nom de la communauté dominée. Et nous continuons à le faire. Et il y a un concept en sciences politiques qui est encore peu connu, que je vous livre à l'état brut, c'est la chalgoumisation de l'autre. C'est-à-dire quand on fabrique des gens aussi illégitimes que l'imam Chalgoumi, et qu'on lui donne le droit, il suffit de lui coller un petit chapeau blanc sur la tête, il est sunnite, et hop, de parler au nom des musulmans. Et c'est humiliant et c'est stigmatisant. Et moi, j'ai mis une minute de Chalgoumi sur, je dirais pas Antenne 2, mais bien France 2 cette fois-ci, c'est 50 djihadistes de plus. Donc il faut savoir que dans ces musulmans à qui on donne la parole publique dans les médias aux heures de grande écoute, il y a une distorsion. Parce qu'on met en situation de ne pas laisser s'exprimer une partie de la tension qu'il y a quand on est musulman à l'intérieur de l'ensemble français, qui est que, attention, peut-être bien que la politique de mon pays introduit des distinctions entre le traitement des communautés respectives, et vous savez très très bien que si je m'appelle Arnaud Klarsfeld et que je pars manier la mitraillette dans les territoires palestiniens en toute illégalité juridique au regard du droit international pour y buter des Palestiniens, je suis dans la légalité républicaine et le vivre ensemble, et si je fais le dixième de cela que j'établis la... Non. Ah non, pas du tout. Et si je fais le dixième de cela alors que je suis musulman, je suis dans l'illégalité républicaine. Mais monsieur, exprimez-vous, dites-moi pourquoi je vais trop loin, c'est très important. Dites-le, je suis prêt à entendre. Non, mais exprimez-vous, monsieur, pour qu'on puisse comprendre pourquoi vous réagissez. Il y a de l'antisémitisme dans ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est ça le problème. Merci d'avoir illustré ce que je voulais dire.
Une question consensuelle, s'il vous plaît.
On donne l'avantage.
Ça viendra après. Oui, oui.
Il n'y a pas besoin que ce soit consensuel.
Non, mais c'est très bien. Je sais. Je sais, moi, je suis très content.
Merci. Alors, j'espère que c'est consensuel. Donc j'avais une question. Vous avez parlé justement de la plasticité du lexique de l'islam et qu'on pouvait avoir autant de mouvements d'extrême gauche que d'extrême droite. Et j'aurais aimé savoir si vous pouviez citer des mouvements d'extrême gauche dans l'islam actuel.
Oui, bien sûr.
Et nous en expliquer un peu le
contenu. À l'origine, les frères musulmans sont un mouvement qui a frayé avec l'extrême gauche. Le registre est un registre social, socialisant. Alors évidemment, au même moment, les élites, que ce soit en Égypte, en Indonésie, en Turquie, vont se débarrasser du socialisme, du mouvement communiste. Et donc, il y aura une alliance au moins temporaire dans la plupart de ces pays contre le communisme, ce qui va les ramener face avec une sorte d'affrontement qui va les pousser plus vers la droite. Mais comment dire, à l'origine, si au moins le vocabulaire, le terme de justice sociale, qui est la justice, c'est le seul terme que l'on retrouve dans tous les partis, que ce soit en Indonésie, en Malaisie, en Turquie, en Égypte, en Tunisie, commun aux frères musulmans, est un terme qui fonctionne évidemment très bien à gauche. Et ça n'est qu'assez lentement qu'ils vont se replier sur un registre beaucoup plus moral et assez largement, pas totalement, mais assez largement, et il faut varier, distinguer suivant les pays, abandonner une critique sociale du moins radicale. Alors pourquoi ça s'est fait ? Ça s'est fait notamment par des alliances. L'AKP, grâce notamment à des alliances avec tout un réseau de très grosses PME en Anatolie qui les a financées. Ça s'est fait dans une moindre mesure en Égypte. Ça s'est fait également en Malaisie, qui fait qu'il y a eu une insertion dans un certain capitalisme occidental qui, au niveau de l'islamisme politique, hein, je ne parle pas de l'islamisme djihadiste, a conduit à cette droitisation morale. Pour ce qui est du djihadisme, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on a... est-ce que si on les compare aux Khmer Rouge, par exemple, dans la capacité de violence, le discours politique est ensuite beaucoup plus difficile à situer sur l'échiquier politique. Il y a quand même encore un aspect utopique de justice totale, d'égalitarisme total chez ces gens. Alors évidemment, ils sont dans une folie meurtrière. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, l'Occident, et en particulier la France, en retient particulièrement les aspects moraux. C'est-à-dire notamment quelque chose qui semble insupportable au public français, c'est le fait de forcer les femmes à se voiler. C'est évidemment très, très dérangeant, mais entre ça et se faire assassiner, emprisonner, etc., y a, en termes de conséquences, moi je préférais qu'on me demande de mettre un voile plutôt qu'on me mette en prison.
L'alternative n'est pas là, mais peut-être...
Et l'alternative n'est pas... Non, je ne veux pas du tout dire que ce n'est pas quelque chose qui doit être fermement combattu. Je dis simplement qu'on y est extrêmement sensible et sans doute moins sensible qu'à d'autres types de violence dans d'autres contextes.
Juste une chose, il y a aussi un certain nombre. Là, on est dans le registre politique pour l'histoire de l'extrême gauche. Il y a aussi quand même un registre social. C'est-à-dire que ce qui a fait la force des mouvements islamistes aujourd'hui aussi, c'est tout le travail préparatoire qu'ont fait des associations non politiques, mais qui étaient pas de gauche. Mais pas d'extrême gauche parce qu'il n'y avait pas de volonté de prise de pouvoir, mais de redistribution de la richesse et pour pallier la faillite des États.
d'États souvent parfois corrompus et qui monopolisaient la rente fiscale et les revenus, comme on a pu le voir dans un certain nombre de pays, comme l'Égypte ou la Libye. Et là, il y a eu un travail de gens qui ont fait ça au nom de la religion, et ça prépare évidemment ensuite, et ça légitime, des partis politiques qui arrivent et qui se construisent sur des réseaux constitués d'associations. Donc, et là, en effet, on est sur un pan qui est plutôt un pan redistributeur, redistributeur moralisant aussi. Bon. François,
sur un terrain qui est celui de la morale.
Non.
Sur un terrain qui est celui de la morale, qui est donc au cœur de nos réticences à l'égard des musulmans, dès lors qu'ils ont des poils au menton, je voudrais prendre un exemple de terrain en Malaisie, pas loin de chez toi, et il y a fort longtemps, au sein d'une assemblée qui était... parce qu'on parle de Daesh, d'accord ? Daesh est l'expression extrême d'un spectre de mouvements, je dis même pas de musulmans, de partis islamistes, c'est-à-dire de musulmans très musulmans, qui sont aux antipodes de ce que fait Daesh. Donc ne l'oublions pas, s'il vous plaît, quand on réfléchit. Mais il y avait un cheikh barbu, donc représentant de l'expression moralisatrice que l'on peut faire naturellement de la référence religieuse, qui venait dénoncer, parler de natation, je ne sais pas quoi, il ne fallait pas que les femmes nagent. Et dans la salle s'est levée une jeune fille qui avait le voile soigneusement noué et qui a interpellé le shir. Elle a dit « Comment osez-vous, shir, quand vous savez que le prophète a dit de nous que nous devons être capables de nous porter au secours de notre prochain dans toutes circonstances, vous voudriez nous empêcher de savoir le sauver ?» Voilà. Ça, c'est une anecdote extrêmement révélatrice du fait que les dynamiques de modernisation continuent entre guillemets, sous le voile. C'est le titre d'un ouvrage célèbre qui s'appelle « Révolution sous le voile » de Fariba Adelkha, qui a montré comment les femmes iraniennes sous le voile, avec les matériaux symboliques imposés comme cadre par le pouvoir autoritaire, ont poursuivi les dynamiques d'émancipation. Donc je ne veux pas dire plus que ça. L'expression, je vais vous faire une concession majeure, l'exception autant d'extrême-gauche que d'extrême-droite est sans doute extrême. Voilà. Il faut quand même admettre que quand un message émanant d'un corpus religieux avec son historicité propre fait irruption dans le champ des pratiques sociales, il a plutôt des références anciennes. Hein. Et il faut donc... Il y a un coefficient conservateur. Il ne faut pas le nier. Donc mon expression, je la jette à la poubelle. Pas autant d'extrême-gauche que d'extrême-droite. Mais certainement pas bloquée dans des postures uniquement et exclusivement conservatrices. La dynamique modernisatrice est bien à l'œuvre au sein des sociétés musulmanes, même quand ces sociétés musulmanes affichent ostensiblement leur volonté de n'employer que les référents issus de leur patrimoine historique. Voilà, j'espère avoir des choses de façon plus nuancée.
Juste un mot pour être bref, parce que la plupart des interventions ont été un peu longues. Oui, vous avez tout à fait raison, bien sûr. C'est-à-dire que... Je reviens là à la politique, alors que mes camarades ont parlé des aspects sociétaux sur lesquels ils ont tout à fait bien parlé. Mais quant à l'ordre politique, il est très évident que tout au long de la guerre froide, et pratiquement depuis 1920, depuis le congrès de Bakou de 1920, les musulmans ont été absents du mouvement communiste. Et l'islam a été une force anticommuniste considérable, donc un allié de l'Occident considérable. Demandez-vous pourquoi le premier ministre du Nigeria indépendant était un musulman, alors que les musulmans étaient alors nettement minoritaires dans l'ensemble nigérian. C'est tout simplement parce qu'on était sûr, la Grande-Bretagne était sûre, en confiant le pouvoir au Nigeria à un musulman, que le communisme ne passerait pas. Demandez-vous pourquoi les Malais ont été institués en tant que Bhumiputra, fils de la terre et détenteur du pouvoir politique absolu par la même Grande-Bretagne, c'est parce qu'on avait peur des Chinois et de la révolte communiste chinoise. Demandez-vous pourquoi les partis musulmans ont exterminé les communistes indonésiens dans les années 60. Bon, c'est assez évident. Et vous pourriez multiplier les exemples dans toutes les régions du monde musulman. Ce qui est intéressant, c'est que justement depuis 1980, et surtout depuis 1990, depuis la chute de l'Union soviétique, vous assistez à un retournement d'alliance. Les chrétiens du Nigeria, qui étaient aux yeux des puissances occidentales finalement les gens dangereux, c'est-à-dire susceptibles d'être gagnés par le communisme, sont aujourd'hui devenus des alliés. Et au contraire, ce sont les musulmans dont on s'inquiète au Nigeria. Voilà, par exemple, pour prendre le cas du Nigeria. vous avez raison, hein, bien sûr.
L'islam était à droite, a été dans la politique internationale à droite.
Je ne sais pas s'il a été à droite ou si on ne l'a pas classé à droite. Et si, oui, oui, on est bien d'accord. Après, bon, j'ai quelques...
Non, pour moi, disons, réfléchir à partir du référent droite-gauche, extrême-gauche, extrême-droite, c'est un peu réducteur. Et puis, bon, un réflexe historien naturel consiste à ne pas opposer de manière manichéenne, comme on l'a un peu trop fait, Occident-Islam. Hein. Donc, alors, écoutons aussi des voix discordantes hein, dans la tradition historique, dans l'actualité. Écoutons des musulmans laïcs. Vous pouvez écouter sur Google Mohamed Harkoun, hein, au nom de l'islam, où il commence par critiquer cette dissociation manichéenne Occident-Islam et où il présente aussi d'autres lectures possibles hein, de la tradition depuis le 9e siècle, des textes théologiques, des textes philosophiques, de la tradition politique. Et cessons d'assigner les musulmans à une identité caricaturée, hein, tout comme on caricature aussi cette essence que serait l'Occident.
Merci. Je pense que... Bon, une dernière question et... Oui.
En fait, j'aurais juste voulu revenir à Ibn Khaldoun et à ce qu'en a exposé Gabriel Martinez-Gros, parce que je me disais, en parlant de ce processus qui, d'après ce que vous dites, selon Ibn Khaldoun, serait assez irréversible de civilisation, que penser, par exemple, de ce qui peut se passer en Libye lorsque, après 40 ans de croissance et d'urbanisation et de scolarisation, on a affaire à un réarmement, ou en tout cas une diffusion des armes de guerre et des pratiques militaires, enfin, ou paramilitaires dans la société libyenne, à l'occasion et dans la continuité de ce qui s'est passé au printemps 2011 et de la révolte contre Kadhafi.
Oui, oui, non, votre question est très intéressante pour moi, en tout cas, bien sûr. C'est-à-dire, si vous examinez le monde sous l'aspect de la théorie khaldounienne qui m'a totalement envahi, vous l'avez bien compris. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire, donc, d'abord, je ne pense pas que ce soit la majorité des populations libyennes qui se réarment. Hein. La majorité de la population de Tripoli, elle est sous les lits et derrière les matelas pour essayer de se protéger des balles qui se perdent très facilement par les temps qui courent. Les milices ne représentent que des minorités assez minces, même si elles sont nombreuses. Mais de toute façon, c'est pas là la question. La question est comment se forment ou se reforment les marges. Et il est très évident que le ralentissement actuel de l'économie mondiale, le fait que les États ont de moins en moins les moyens de réinvestir ou d'investir les quartiers difficiles ou les zones périphériques de leur territoire, non seulement dans nos pays, mais surtout dans les pays dits émergents, hein, suppose la réapparition de marge et donc le renouvellement de la violence potentielle des sociétés. Il n'y a rien de tout à fait irréversible lorsque l'État disparaît, puisque le grand phénomène civilisateur, c'est l'État, dit Ibn Khaldoun, lorsque l'État disparaît, normalement, la tribu renaît. Dans l'Argentine, je prends un exemple, pas musulman, comme ça nous évitera les débats qui n'ont aucun sens, finalement. Dans l'Argentine d'aujourd'hui, à la grande stupeur de Clarín ou de La Nación, des grands quotidiens argentins, parce que tout de même, l'Argentine est un pays civilisé, c'est pas comme le reste de l'Amérique latine, sous-entendu, que dans l'Argentine d'aujourd'hui, on est étourdi du fait que dans certaines banlieues de Buenos Aires, que l'État a pratiquement abandonné, le lynchage est réapparu comme justice expéditive, hein, et tout simplement parce que lorsque l'État se retire, la loi de la tribu reprend ses droits. C'est-à-dire que, bon, bah, le type... Il y a d'abord des solidarités nouvelles du voisinage qui se réinstituent, et puis ces solidarités nouvelles de voisinage qui se réinstituent pour s'aider dans la vie quotidienne se traduisent par des formes de brutalité extrême lorsque la criminalité s'y établit. Hein, bon. Et donc, vous avez des gens qui ont été, bon, dans la très civilisée Argentine, des gens qui ont été lynchés ces derniers mois parce qu'ils faisaient du vol dans les mauvais quartiers, quoi, en somme. Vous avez eu ça ça d'ailleurs en France. Hein. Il y a eu un jeune Rome qui a été, bon, qui visiblement avait visité un appartement qu'il fallait pas visiter, qui devait servir de dépôt de drogue, et là, ça a mal tourné pour lui. Hein. Il y a ça. Ça, c'est la reconstitution de la violence marginale khaldounienne. Voilà.
Bon, alors donc on va juste conclure. Ça me fait plaisir que des éléments un peu économiques et sociaux réapparaissent, parce que évidemment, comme nous sommes des spécialistes des sociétés ou de l'histoire ou des disciplines sur l'islam, on s'est polarisé sur ce que, de manière générale, chacun d'entre nous considère comme non pas l'élément qui définit exclusivement les acteurs de l'histoire. C'est un élément de l'identité que les acteurs peuvent revendiquer et dire « c'est celui-là qui me détermine », mais que je sache, les catholiques pratiquants ne se déterminent pas exclusivement par rapport au canon de l'Église et pour la sexualité, pour n'importe quoi. Et d'autre part, les éléments économiques et sociaux font que, en effet, un trader musulman sera beaucoup plus proche d'un trader juif, chrétien ou athée qu'un marginal, et un marginal chrétien, musulman ou juif seront finalement beaucoup plus proches, et ils trouveront des moyens d'expression en fonction de leur milieu, du contexte qui sera... Et il se trouve que là, en ce moment, on parle beaucoup, parce que ça nous interpelle, du monde musulman, mais finalement, est-ce qu'il y a une spécificité c'est à voir. Il y en a une, oui. Je vous remercie pour votre présence.